Dans l'évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 1er. Évangile de Luc, chapitre 8, verset 1er. Où nous trouvons en présence d'une nouvelle période parce que jusqu'à ce moment-là, Jésus était resté dans la région de Capernaum. Mais maintenant, il va parcourir toute la zone plus largement pour étendre cette grande œuvre qu'il avait toujours à cœur et qui était l'affaire continuelle de sa vie sur terre, hein, en tout cas de son ministère. Luc chapitre 8, verset 1er. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Amen. Voilà. Et donc, le Seigneur prêche, il va de village en village, on le voit, et les mots qui sont employés dans le texte original montrent qu'il prenait effectivement tout le temps nécessaire, qu'il s'arrêtait quand il le fallait, pour que tous ceux qui le voulaient puissent entendre son message. C'était là son travail, son œuvre qu'il accomplissait. Qu'est-ce qu'il annonçait ? Il annonçait le royaume de Dieu. Ce message tellement nécessaire pour le salut des hommes. Et combien les hommes, eh bien, combien ils doivent se saisir de cela ? Vous savez, les gens, comme le disait Fabio, eh bien, les gens ne réfléchissent pas à la question du rendez-vous qu'il va y avoir avec Dieu un jour plus tard. Savez-vous que dans le cimetière d'une vieille cathédrale en Angleterre, il y a une inscription sur une pierre tombale d'une femme qui vécut au XVIIIe siècle, et après avoir donné les dates de sa naissance et de sa mort, il y avait ces paroles, il y a toujours ces paroles qui sont inscrites. Elle a été une cousine du duc de Bedford. Voilà, ça c'était marqué sur sa pierre tombale. Hein. Pensez donc, voilà une chose importante, à marquer sur une pierre tombale. Hein. Est-ce que vous pensez que Dieu a été vraiment impressionné lorsqu'elle est arrivée là-haut ? Est-ce que vous pensez qu'un ange qui va accourir à sa rencontre en disant « Faites place à la cousine du duc de Bedford » Certainement pas, hein. Et ça nous fait sourire, et pourtant, eh bien, vous savez, il y a tellement de choses dont les gens s'enorgueillissent dans l'existence et qui ne représentent absolument rien dans le jugement de Dieu en ce qui concerne notre vie, en ce qui concerne notre existence. Et devant lui, ce qui aura véritablement de la valeur, c'est seulement notre attitude à l'égard du royaume de Dieu, à l'égard de l'annonce de la parole de Dieu. C'est ça l'important, c'est ça le nécessaire. Alors, que voyons-nous encore ? Il annonce le royaume de Dieu, est-il dit là, comme une bonne nouvelle. Comme une nouvelle qui est puissante pour sauver les âmes, pour transformer les cœurs et transformer les vies. Il y a eu un beau témoignage du temps de l'évangéliste Moody. C'était celui de Valentin Burke, donc, qui était un célèbre cambrioleur et qui, à ce moment-là, était en prison, donc, dans une cellule de Saint-Louis, aux États-Unis. Il attendait là la fin de sa peine. Et puis voilà qu'il a vu entre les mains d'un co-détenu un journal. Et en tête de ce journal, il y avait un titre. Le titre, c'était le suivant. « Le geôlier de Philippe a été pris ». Ah, il s'est dit, un geôlier qui a été pris, ça c'est intéressant comme histoire pour moi. Hein, il y en avait après les geôliers, donc il s'est dit, il faut que je lise cet article. Et quand il a lu l'article, il a demandé à l'autre prisonnier de lui passer, et il s'est mis en colère parce qu'il s'est aperçu qu'en fait, il s'agissait du texte d'un sermon de l'évangéliste Moody, qui venait justement de prêcher dans cette ville-là sur la conversion du geôlier de Philippe. Et donc, il a été pris de cette manière-là. Et puis, malgré tout, même qu'il était contrarié, qu'il était énervé, eh bien, il y a eu ces mots qui revenaient souvent, en tout cas dans l'article, dans la prédication certainement, c'est « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Voilà. Et puis, il a fini quand même par se mettre à genoux, il a demandé pardon à Dieu, et dès ce jour, il a été un homme changé. Et à sa sortie de prison, il est allé à New York, et puis là, il a essayé vraiment de gagner sa vie honnêtement, mais il avait du mal. Il n'y arrivait pas, alors il est retourné à Saint-Louis, et là, quand il est arrivé, il y a un policier qui l'a arrêté, et puis qu'il a emmené au quartier général de la police. Et là, on l'a informé que la police de New York l'avait fait prendre en filature et que l'enquête avait prouvé qu'il s'était conduit droitement, qu'il s'était conduit honnêtement. Et alors, ils lui ont donné quelque chose tout à fait inattendu, ils lui ont donné un poste de shérif adjoint. Et quelques temps après, lorsque Moody le visitait dans sa nouvelle fonction, sa nouvelle position, Burke lui a montré des diamants, des joyaux précieux, et il a dit « Regardez, ils me font confiance pour les garder. Regardez ce que la grâce de Dieu a fait d'un cambrioleur. » Voilà. Et quand, quelques temps plus tard, dans une réunion de témoignage, cette expérience a été rapportée, il y a une petite dame qui s'est levée à son tour et qui a dit « Jésus m'a sauvé, moi aussi, m'a sauvé d'une vie d'aise, de luxe et d'égoïsme. Et il a fallu autant de grâce pour me sauver ainsi que pour sauver mon frère du banditisme dans lequel il était. » Et ça, c'est une grande réalité. J'oserais presque dire, il faudrait encore plus de grâce. Encore plus de grâce pour sauver cette personne-là. Parce que vous savez, quand les gens se croient bien, hein, quand les gens se prennent pour quelque chose, quand ils se croient supérieurs aux autres, vous savez, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué pour les amener à admettre qu'ils ont besoin d'être sauvés comme le dernier des cambrioleurs. Hein. Et c'est pourtant une nécessité. Et puis, ce que nous voyons aussi, c'est que Jésus annonce ce royaume, il l'annonce mais accompagné de témoignages de délivrance. Parce que ces femmes qui étaient là, hein, parmi elles, il y en avait qui pouvaient témoigner de ce que cette bonne nouvelle du royaume et de son messager avaient donc pu accomplir en leur faveur. Et ainsi, la parole de Dieu était confirmée par des témoignages. Et il en était à ce moment-là ainsi, et il en est toujours ainsi aujourd'hui. Hein. Combien les témoignages sont aussi importants pour accompagner la prédication de l'Évangile. Et il annonçait aussi le royaume de Dieu accompagné de prières pour les gens qui étaient dans le besoin. Hein. Ce n'est pas précisé ici directement, mais nous savons qu'il le faisait parce que dans tous les autres passages où on voit Jésus annoncer l'Évangile, il prie aussi pour ceux qui ont besoin. On voit qu'il agissait ainsi pour confirmer la parole dans les vies. Et puis, il a annoncé le royaume accompagné aussi de témoignages de guérison. Voilà, témoignages de guérison, et là encore, que de guérison qui était là, et que nous bénissons le Seigneur lorsque nous voyons le Seigneur qui guérit, parce que le Seigneur veut ainsi nous fortifier dans la foi, nous encourager, et puis ceux qui ne connaissent pas Christ, eh bien, il veut aussi leur montrer combien nous avons un Sauveur vivant, rempli d'amour et qui guérit. Et il annonce aussi, nous voyons cela en septième enfin, comme un exemple pour les 12. Les 12 sont là et Jésus, bien, il fait tout ça pour leur montrer pratiquement ce qu'il faut faire, pour leur montrer pratiquement ce qu'eux vont avoir à faire après. Et nous savons qu'après, il va les envoyer les 12 à leur tour, puis après même il en enverra même 70. Mais là, il est en train de leur montrer comment il faut faire. Et donc, eux aussi, eh bien, ils apprennent cela, ils apprennent vraiment aussi eh bien, l'assurance et le courage qu'il faut avoir pour faire cela. Je vais vous donner le témoignage du réformateur Latimer, qui était un homme aussi, un homme courageux, et qui a été prédicateur à la cour du roi d'Angleterre, Henri VIII. Henri VIII, pour ceux qui connaissent, vous êtes entendu parler de Barbe Bleue, peut-être, on parle de lui, ben voilà. Henri VIII, c'était donc ce roi d'Angleterre qui a eu de nombreuses femmes, et lorsqu'il y en a une qui devenait indésirable, il la faisait mourir par décapitation ou par un autre moyen pour en épouser une autre. Hein. Donc un affreux tyran. Mais il aimait spécialement Latimer qui lui disait franchement sa façon de penser. Voilà. Puis il raconte qu'un dimanche, Latimer, une fois de plus, n'a pas mâché ses mots et il s'est mis à citer nommément tous les péchés du roi. Donc, parmi ses auditeurs, il y avait Henri VIII, toujours, et puis il y avait tout son état-major, et tout un groupe, un bon nombre de ses nobles. Et tous étaient là, et se disent, mais comment est-ce que le roi va réagir à ça? Et puis, il y avait un silence de mort qui régnait dans l'église à ce moment-là, et après le sermon, le roi a appelé le prédicateur, et il a réprimandé, et lui a dit, qu'est-ce qui t'a pris de me blâmer de la sorte devant tout le public? Je te dis une chose, Latimer, si tu tiens à ta tête, tu t'excuseras dimanche prochain en bonne et due forme devant le même public et tu rétracteras chacune de tes paroles, compris ? Latimer a répondu, certainement, Majesté. Voilà. Et le dimanche suivant, donc, tout le monde attendait, le roi était assis comme d'habitude, premier rang dans l'église, entouré de toute sa cour. Et tous étaient anxieux d'entendre ce que Latimer allait dire. Alors il a commencé par un monologue débité à haute voix. Il a dit « Latimer, n'oublie pas devant qui tu prêches aujourd'hui. Devant Henri VIII, le puissant roi d'Angleterre, qui peut te raccourcir d'une tête si tu dis quelque chose qui déplaît à sa majesté. Veille donc sur ta langue. » Voilà. Il y a un silence de mort de la salle. Dans la salle, qu'est-ce qui allait se passer ? Alors, le prédicateur a continué. « Latimer, n'oublie pas devant qui tu prêches aujourd'hui. Devant Dieu, le roi des rois, qui peut envoyer ton âme en enfer à la perdition. » Garde-toi donc bien de prononcer un mot qui puisse heurter la majesté suprême. Veille donc sur ta langue. Et en enchaînant, Latimer redit sa prédication du dimanche précédent avec un ton encore un peu plus tranchant. Voilà. Et puis la figure empourprée, les yeux grands ouverts, le roi a écouté. Et après le sermon, il a appelé Latimer et lui a dit « Qu'est-ce qui t'a pris de sortir une deuxième fois ces impertinences ?» Alors Latimer s'est mis au pied du souverain et a dit, le souverain a dit tout simplement « Je dois cela à Dieu et à mon roi. » Et sur ce, vous savez ce qui s'est passé ? Henri VIII l'a aidé à se lever, il l'a pris dans ses bras et il a prononcé cette parole « Comme il est bien que j'ai encore un fidèle sujet. » Voilà. Et ce roi, c'était un grand pécheur, mais il était quand même assez honnête pour reconnaître que cet homme disait la vérité. Vous savez, la vérité fait toujours son effet. La vérité fait toujours son effet, même si, évidemment, vous en avez un autre qui s'appelait Jean-Baptiste. Ben lui, il s'est fait raccourcir la d'une tête, hein, malheureusement pour lui. Hein. C'était du temps d'Hérode, mais en tout cas, Latimer, il avait le même courage que lui. Et donc, eh bien, Jésus montrait à ses disciples comment il fallait prêcher l'Évangile. Et puis, vous avez un point étonnant dans ce texte, c'est qu'il nous est parlé de plusieurs femmes qui accompagnent Jésus à ce moment-là, et il nous est rarement parlé de ça par ailleurs, remarquez bien. Vous avez Marie de Magdala. Marie de Magdala, c'était probablement la pécheresse pardonnée dont il était question à la fin du chapitre 7, justement le chapitre précédent. Hein, on a parlé il n'y a pas si longtemps encore, dans les versets qui précèdent donc. Et puis là, nous voyons ce que Jésus dit, rappelez-vous comment il nous a expliqué qu'elle se tenait derrière Jésus. Donc, et puis qu'elle lui mouilla les pieds de ses larmes, qu'elle les essuya avec ses cheveux, qu'elle les embrassa, qu'elle les oignit de parfum. Hein. Et puis, souvenons de cela, nous rappelons son humilité, déjà, hein, puisqu'elle se tenait ainsi derrière, aux pieds de Jésus, la profondeur de ses sentiments, de son émotion, et son obéissance aussi, et puis le prix de son amour, hein, ce parfum précieux qu'elle a versé, et puis sa reconnaissance, et puis son humilité, et puis sa foi, et puis son service. Hein, voilà. Voilà, elle était reconnaissante à Jésus pour l'œuvre puissante de délivrance et de salut qu'il avait opéré dans sa vie. Puis alors, vous aviez quelqu'un de tout différent. Et vous avez ces deux noms-là qui sont nommés en premier parce que, justement, ça paraît être un petit peu les deux opposés dans la vie humaine, j'entends. Hein. Mais Jeanne, femme de Chusa, intendante d'Hérode. Alors là, c'est quelqu'un de tout différent. Hein. Et c'était probablement la femme de l'officier du roi dont le fils avait été guéri, vous savez. Ça nous est rapporté dans Jean chapitre 4, verset 46, parce que vous avez quand même pas mal de points concordants. Hein, Jean 4, 46 à 54. Déjà parce que ça se passait dans la région de Capernaum. Ensuite, parce que là aussi, dans Jean 4, 46, nous a expliqué que c'était un officier du roi. Ça correspond bien, d'autant plus qu'on sait qu'Hérode avait une résidence dans la région. Et il nous est dit en plus, dans Jean 4, verset 53, c'est qu'il crut, lui, avec toute sa maison, donc sa femme aussi. Et puis, vous savez, quand c'est le fils unique qui est touché et qui est miraculeusement guéri ainsi, eh bien, la maman est évidemment particulièrement touchée aussi, on peut bien le comprendre, et combien elle devait être reconnaissante envers Jésus. Alléluia. Voyez-vous, et après vous avez Suzanne et puis d'autres encore, nous a-t-il expliqué, qui étaient là, des femmes qui étaient là et qui soutenaient le Seigneur Jésus. Et ça nous amène justement directement au point suivant, les raisons pour lesquelles ces femmes étaient là. Elles étaient là donc pour soutenir la prédication et l'annonce de la bonne nouvelle de la parole de Dieu qu'elles approuvaient pleinement. Et en tout lieu, puisque c'est par cet évangile qu'elles avaient été sauvées, secourues, exaucées, bénies par Dieu, et je crois que c'était une étrange apparition, spécialement à cette époque-là, de voir cette troupe qui allait dans les villes, dans les campagnes, en marchant donc. Et donc, vous aviez ces 12 disciples, vous aviez ces quelques femmes qui étaient là, et puis ils ne s'occupaient que d'offrir le salut, que de célébrer le salut, et c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu ou qu'on avait très peu vu auparavant. On l'avait vu aussi déjà, du temps de certains prophètes, mais c'était vraiment quelque chose de peu vu. Et c'est pour ça que les missions ont une valeur, vous savez. Parce que les missions, eh bien, tant qu'on prend à pratiquer les missions, eh bien, c'était exactement le même genre de travail qui a pu être fait. Et c'est vrai que là aussi, eh bien, pouvaient témoigner et peuvent témoigner ceux qui ont fait les mêmes expériences de guérison et de délivrance que ces femmes-là. Amen. Donc, elles étaient là pour témoigner, comme on le dit, de leur délivrance, de leur guérison. Et qui dira jamais assez la puissance, l'importance d'un témoignage. Vous savez, on peut discuter les opinions de quelqu'un. On peut discuter toutes sortes de choses. Hein. Les uns peuvent avoir des opinions de droite, les autres de gauche. Il y en a qui peuvent être des écologistes à fond. Il y en a qui peuvent être des gens qui n'y croient pas trop, etc. On peut discuter sur... Mais vous ne pouvez pas discuter un témoignage. Un témoignage, c'est la personne, elle vous dit ce qu'elle a vécu. Hein. À moins de la considérer comme un menteur ou une menteuse, d'accord. Bon, mais à ce moment-là, il faut le prouver aussi. Hein. Vous savez, mais en justice... On n'a rien trouvé de mieux pour rendre quantité de jugement que des témoignages. Hein ? Alors, vous avez une personne qui a été témoin de quelque chose, elle le dit, après, évidemment, ça va être éprouvé, il y a des avocats qui ont posé des questions pour voir si le témoignage est fiable, mais si c'est effectivement le cas, et bien sur la base de ce témoignage-là, vous avez des jugements qui vont être rendus. Hein ? Donc, ça montre l'importance. Le Seigneur a dit aux siens, « Vous serez mes témoins ». Et il faut que nous puissions être des témoins du Seigneur en tout temps et en tout lieu et que nous puissions saisir ces occasions, ces possibilités qui nous sont offertes. Amen. Et ces femmes, elles étaient là aussi pour servir le Seigneur et ses disciples. Le texte nous précise donc que c'est en qualité de servante que ces femmes accompagnaient Jésus. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, donc, servait des disciples qui étaient de pauvres pêcheurs du lac de Galilée et d'autres hommes humbles. Et l'humilité, combien elle est précieuse dans l'œuvre de Dieu, parce que ces femmes aussi avaient cette humilité. Raconte l'histoire du compositeur Robert Harkness qui avait dans sa chorale une chanteuse qui avait un talent, un vrai talent de chant. Et un matin, elle l'a appelé au téléphone. Elle lui a annoncé brutalement qu'elle quittait la chorale. Alors, aussi brutalement, il a répondu « Votre démission est acceptée oh. ». Alors, à l'autre bout du fil, elle a été très surprise, elle a bredouillé, puis elle a dit « Mais voulez-vous dire que... » « Mais oui !» a répondu Harkness. « Vous êtes entré dans la chorale de votre plein gré et vous pouvez vous retirer si c'est là votre choix. Vous pouvez être sûr que le comité vous enverra une lettre de remerciement pour le bon travail que vous avez fait. » « Mais est-ce que je peux venir vous voir et vous expliquer d'abord » plaida-t-elle. Voilà. Et lorsqu'elle vint, elle lui rappela, mais elle était tout à fait aussi sûre d'elle maintenant, hein, à ce moment-là, elle lui rappela « Monsieur Harkness, on ne m'a pas demandé de chanter le solo depuis un mois. Ah. » Alors, si c'est votre raison, a dit fermement Harkness, vous avez bien fait de démissionner. Parce que de toute évidence, vous chantiez non pour la gloire de Dieu, mais pour la vôtre. Et il n'y a pas de place dans notre chorale pour de tels chanteurs. Hein, donc, vous ne pourrez revenir, à moins que vous changiez et que vous décidiez de vous soumettre totalement au Seigneur. Allez chez vous et réfléchissez à cela pendant un mois. Et au bout de 3 semaines, elle est revenue le voir. Elle a dit, « Monsieur Harkness, j'ai décidé de me soumettre totalement au Seigneur et de rechercher uniquement sa gloire. Est-ce que je peux revenir ?» Certainement, lui a-t-il répondu, mais la place au premier rang a été donnée à quelqu'un d'autre et on vous trouvera une place au dernier rang. Ah, voilà. Et après la répétition, elle est revenue voir Harkness et lui a dit, je suis prête à m'asseoir à n'importe quelle place, la plus humble et plus que je mérite. Alors le grand musicien lui a dit chaleureusement, eh bien voilà ce que j'aime entendre, je vous crois et je veux que vous chantiez un solo dimanche prochain. Voilà. Elle a chanté et bien que sa voix était la même, eh bien la chanteuse était transformée. Et c'est ça le grand point, en fait. Hein. Dans l'œuvre de Dieu, on peut faire bien des choses, mais il faut les faire avec ce cœur transformé, parce que c'est par amour pour Jésus qu'elle l'a fait. Et donc, et aussi, ces femmes, c'est par amour pour Jésus, ces femmes dont j'ai parlé dans l'Évangile, c'est par amour pour Jésus qu'elles l'ont fait. Et ce que ses disciples, d'ailleurs, avaient, les disciples hommes, je veux dire, avaient eu du mal à comprendre, elle l'avait compris. Hein, parce que Jésus a dit et répété, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et en ajoutant encore, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Oui, que notre vie puisse être pour servir le Seigneur et nos frères et sœurs dans la foi. Amen. Et puis nous voyons encore qu'elles ont suivi Jésus partout où il va. Parce que l'objectif, c'était de rester près de lui. Amen. Et notre objectif à nous, c'est aussi ça, rester près de Jésus. Hein, c'est ça l'important. L'important, c'est que nous soyons avec lui, qu'il soit avec nous, bien sûr, mais surtout que nous veillons à rester avec lui. Et puis, elles étaient là aussi pour écouter la parole du Seigneur, la parole de Jésus, ce royaume qui était annoncé, cette bonne nouvelle. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est une nourriture excellente pour l'âme, hein, que cette parole-là, et quelle guérison en même temps, et quel affermissement en même temps pour le corps. Béni soit Dieu, alléluia. Et elles étaient là aussi pour témoigner de leur reconnaissance envers Jésus, de tout ce qu'il avait accompli pour elles. Et nous voyons qu'elles étaient prêtes à tout donner pour Jésus et qu'elles le faisaient réellement. Est-ce que nous sommes prêts à tout donner pour Jésus ? Vous savez, Sophie Scholl était une jeune Allemande qui, dans les années 40, a vu la détérioration de son pays sous le règne du régime nazi. Et donc, elle a décidé de faire une différence. Avec son frère, un petit groupe d'amis, elle a commencé à protester paisiblement, hein, mais voilà, non seulement contre les actions, mais aussi contre les valeurs que les nazis avaient imposées à la nation. Et elle et d'autres ont été arrêtés et ils ont été exécutés pour avoir dénoncé le mal dans leur pays. Bien qu'elle n'ait pas désiré mourir, donc elle a vu que les conditions dans son pays exigeaient une action, même si cela signifiait la mort. Et je crois que, bon, ça, ce sont des valeurs humaines, quelque part. Hein. Mais l'histoire de Sophie soulève aussi cette question critique pour nous. Pourquoi serions-nous prêts à mourir ? Grande question, ça. Hein. Pourquoi serions-nous prêts à mourir ? Des noms comme celui de Jim Elliot, Nate Saint, Pete Fleming, Roger Youderian, Ed McCully, sont des gens qui ont donné leur vie dans les jungles de l'Amérique du Sud, parce qu'ils étaient résolus à répandre l'Évangile. Hein, on le sait. Et Elliot a révélé sa motivation derrière ce sacrifice en écrivant « Il est sage, celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. » Je répète ça. « Il est sage, celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. » Ce qui donne ce qu'il ne peut pas garder, c'est-à-dire sa vie, pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre, c'est-à-dire c'est le ciel. Hein, voilà. Et l'apôtre Paul l'a exprimé ainsi en disant « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Il y a certaines causes qui méritent vraiment qu'on meure pour elles, mais en tout cas, il y en a une qui mérite vraiment qu'on donne sa vie pleinement pour elle, et bien c'est véritablement l'Évangile. Parce qu'après, ben, vous avez en plus ce qui nous attend, ce pour quand on le fait, c'est cette parole de celui qui déclare « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Amen. » Et ceux qui portent leur croix ici-bas, bien, porteront aussi la couronne dans la vie à venir. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est par amour pour Jésus qu'elles ont agi ainsi. Et bien, donc, il est marqué qu'elles étaient là aussi pour l'assister de leur bien, pour assister le Seigneur de leur bien. Hein. Donc, bien qu'il soit riche, le Seigneur, par amour pour nous, il s'est fait pauvre, afin que nous soyons enrichis. Est-ce que Jésus aurait eu vraiment besoin que ces femmes l'assistent de leur bien ? Bien sûr que non. Vous savez que Jésus, quand il a eu besoin de pain dans le désert, il a fait un des miracles pour nourrir 5000 hommes, hein, sans compter une autre fois 3000. Hein. Quand il a eu besoin d'argent, pour payer un impôt. Il a dit à Pierre, tiens, tu vas aller là-bas un peu plus loin, puis tu vas trouver un poisson avec un statère dans sa bouche, avec une pièce dans sa bouche. Hein. Donc Jésus pouvait trouver les choses. Mais nous voyons que ceux qui agissent ainsi, ceux qui soutiennent le Seigneur ainsi, donc ceux qui donnent et surtout qui se donnent, eh bien ceux-là, eh bien le Seigneur va pouvoir mettre des bénédictions supplémentaires sur leur vie. Et c'est pour cela qu'il permet qu'il puisse en être ainsi. Amen, amen. Et puis voilà, et puis nous arrivons en conclusion de cette courte prédication avec encore une anecdote. Une petite anecdote, jadis vivait un, je ne sais pas, c'est un peu d'esprit, je ne sais pas, et qui avait pris la lune en aversion. Il détestait la lune, voilà. Il n'aimait pas la lune. Voilà. Donc il ne pouvait pas la voir. Alors il aurait été malheureux parce que ces temps-ci c'est la pleine lune. Hein. Donc voilà, et il répétait sans cesse partout où il allait, je déteste la lune et je tuerai la lune. Voilà. J'abattrai la lune, vous verrez si je ne le fais pas. Ah, pour réaliser son projet, il s'est procuré un vieux tromblon. Un tromblon, c'est une espèce de vieux modèle de fusil qui fait beaucoup de bruit, qui envoie beaucoup de fumée. Et c'est à peu près tout ce qu'il peut faire. Voilà. Et donc, il a chargé ce tromblon. Et puis, il a attendu qu'il y ait cette belle nuit sans nuages qui puisse lui permettre de frapper son ennemi, la lune, dans toute sa beauté. Voilà. Alors, il a visé. Il a fait feu, et au bruit de la détonation, les voisins se sont précipités dehors, et ils ont trouvé notre pauvre simple d'esprit, dansant de joie, criant à tue-tête, « J'ai tué la lune ! J'ai tué la lune !» Et le fait est vrai, c'est qu'en cet instant, donc, la lune était devenue invisible à cause de l'épaisse fumée du tromblon qu'il avait entièrement voilé, donc, mais seulement pour une ou deux minutes, parce qu'évidemment, dès que la fumée s'est dissipée, la lune est réapparue aussi brillante, aussi sereine que jamais, et bien au-delà des atteintes de l'idiot. Vous savez, c'est une image de tous ces hommes qui essaient de détruire la Bible. J'ai essayé ça. Il y en a encore qui essayent ça. Et quand ils ont lancé ce qu'ils pensent être une grosse attaque contre le Saint-Livre, alors, pour la dérober aux yeux des autres, pendant une minute, ils vont dire « Nous avons tué la Bible, nous avons tué la Bible, nous avons détruit la Bible, c'est son message. » Mais voilà, comme le simple d'esprit, ils vont finir par s'apercevoir qu'ils se sont trompés et que cette vieille lampe continue à briller avec autant d'éclat qu'auparavant pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix, comme il est marqué dans Luc chapitre 1, verset 79. Alors je ne sais pas ce qu'il peut y avoir comme fumée de tromblon dans la vie des uns ou des autres. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être du refus, ça peut être de la négligence de l'évangile, ça peut être de la légèreté, ça peut être de l'incrédulité, ou ça peut être, je ne sais pas, l'amour de plaisir, du plaisir plus que Dieu. Ces choses qui font que les gens essaient de se persuader, mais non, c'est pas possible que le message... Et vous savez, la fumée va se dissiper un jour. La fumée va se dissiper, l'illusion va disparaître, et alors, quelle redoutable réalité pour ceux qui n'auront pas voulu de cet évangile du salut. Jésus est celui qui, lorsqu'il était sur la terre, prêchait cet évangile. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et tous ces gens étaient là autour de lui. Tous ceux qui avaient bénéficié, tous ceux qui s'étaient engagés pour lui. Et le Seigneur nous demande aussi d'être de ceux-là, de marcher avec lui encore, d'être de ceux qui, ayant bénéficié de sa grâce, ayant bénéficié de son message, eh bien, s'engagent dans cette voie de disciple pour le suivre et pour le servir. Amen, amen. Te remercions, notre Sauveur et notre Dieu, parce que tu es toujours le même et parce que tu ne changes pas. Et nous te remercions parce que ce que tu faisais sur la terre, eh bien, tu le soutiens encore exactement aujourd'hui. Tu soutiens encore l'annonce de l'Évangile, notre Sauveur et notre Dieu. Tu fais ton œuvre dans la vie des uns. Voilà une œuvre de guérison dans une vie. Voici une œuvre de pleine délivrance, même de puissance démoniaque dans une autre vie, Seigneur. Et voilà toutes sortes d'autres situations dans lesquelles tu mets ta main secourante, guérissante et libératrice. Béni sois-tu, notre Dieu. Et tout ceci pour confirmer ton évangile, tout ceci pour confirmer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, pour que nous puissions chacun nous y engager, pour que nous puissions devenir des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, béni sois-tu Jésus.